La séance du séminaire d'aujourd'hui est un peu exceptionnelle parce que nous n'accueillons pas toutes les semaines une personnalité comme M. Vasco Graça Mauro. Nous sommes un peu entre nous, la présentation n'est pas aussi formelle, et je parlerai de nouveau de lui au début de sa conférence de demain. Mais je pense que tout le monde ici sait que M. Graça Mauro est un très grand poète portugais, également romancier, essayiste, et qui, outre le fait qu'il est poète, a joué un rôle public et joue un rôle public dans son pays considérable, a joué un rôle politique au moment de la Révolution des œillets, a occupé des fonctions extrêmement importantes sur lesquelles je reviendrai demain pour ne pas, parce que bis repetita si le public est le même. Et il est actuellement directeur du Centre culturel de Belém, qui est une institution magnifique et prestigieuse. Poèmes, il existe une édition bilingue de ses poèmes qui permet à ceux d'entre nous qui maîtrisent mal le portugais de les lire, et en se reportant au texte original, quand même, quand on a une petite idée des langues romanes, même si on n'est pas lusitaniste professionnellement, les comprendre, c'est vraiment magnifique. D'autres ouvrages ont été traduits, en particulier un roman, je dirais pas un livre autobiographique, mais un livre d'enfance qui s'appelle Le Magnolia, et que je vous recommande. Demain, comme vous le savez, demain après-midi, M. Graça Mauro fera une conférence sur la correspondance de Saint John Perse et de Calouste Gulbenkian qu'il vient d'éditer chez Gallimard. Mais aujourd'hui, il va, dans le cadre et dans l'esprit de notre séminaire, il va nous parler de Camões. Naturellement, moi, avec mes gros sabots et mon ignorance, quand on s'adresse à un Portugais et qu'on fait un cours sur quel est le nom du poète, on pense Pessoa. Mais alors, ça agace les Portugais. D'ailleurs, M. Graça Mauro est un peu coupable parce qu'il a écrit naturellement sur Pessoa. Et là, non, tout de même, soyons sérieux, revenons, puis ça tombe bien, puisque nous parlions des chansons de geste il y a un instant, parlons de la seule, peut-on dire, épopée du début des temps modernes vraiment réussie, hein, et fondatrice de... non pas fondatrice, enfin, fondatrice pour son rôle intellectuel, non pas fondatrice d'une littérature, parce que Dieu sait que la littérature galicienne-portugaise est ancienne, mais fondatrice en son rôle intellectuel, Camões. Donc, M. Graça Mauro parle de l'auto-allusion dans l'œuvre d'un poète portugais du XVIe siècle, Luís de Camões. Monsieur.
Bonjour. Je commence par remercier très vivement le professeur Zinck ces paroles que je dois dire, je dois vous avertir que sont assez hyperboliques en ce qui me concerne, et par remarquer que Fernando Pessoa, notre grand poète du XXe siècle, n'aimait pas du tout Camões. Il se prenait pour une sorte de super Camões et il disait que Camões avait été en deçà du reportage transcendant que les navigations portugaises aurait attendu de lui. C'est une boutade assez désagréable à l'égard de Camões, mais c'est aussi une note de bas de page que je mets ici au début de mes mots. J'ai écouté avec un énorme intérêt la leçon que le professeur Zinck a faite à Lisbonne à propos des noms du poète. Et dans cette leçon, il était aussi question de Guillaume d'Aquitaine, Et à propos du poème, ce grand troubadour, qui est ce poème qu'il a fait sur rien, je me suis rappelé que précisément Louis de Camões, 4 siècles plus tard, et se trouvant à Goa dans un état d'extrême détresse, il a toujours été très pauvre, avait fait servir à ses amis un banquet où il y avait dans chaque assiette un petit couplet. Donc il n'y avait rien à manger. C'était ce qu'il appelait un banquet de trovas, un banquet de chansons, un banquet de couplets. Et de ces courts poèmes, je vous propose un tout petit échantillon dans une traduction assez pauvre, mais qui essaie de reprendre le rythme et le type d'ironie. Et vous faites la grimace à cette amphibologie. Sachez donc que la poésie, pour vin, vous donne de l'encre et pour plat, des paperasses, pas des miettes grillées, d'aucune chose une gosse, et rien comme pâté et du vin comme jâté et bouché vide à la sauce. Bon, c'est une façon très ironique de composer un poème sur rien qui permettrait de faire un début de raccord avec l'intervention du professeur Zinck à Lisbonne. Et est tout aussi une façon de faire une allusion amusante à la condition d'extrême pauvreté de l'auteur. Mais alors j'ai une autre idée, puisqu'il était encore question des correspondances possibles entre nom et identité, des références explicites ou cachées du poète à soi-même dans son texte poétique, de la pression, de la sincérité et de la pulsion du déguisement et du masque, de la dépersonnalisation et des enjeux du dédoublement de la personnalité, des contours insoupçonnés de la fiction et de l'hétéronymie, pour reprendre un terme qui a été lancé par Pessoa au XXe siècle. Il était aussi question des rapports entre la parole poétique et le réel, et enfin du jeu et de la crise, c'est-à-dire du jeu comme manifestation de la crise et comme mise en scène, soit de la crise du moi, soit de la crise du verbe, pour nommer et refléter le monde, et aussi comme crise du monde. Et tout cela, je l'avoue, m'est venu à l'esprit comme possibilité de jeu de miroir, d'enchaînement de renvois successifs, de spéculation entre la divagation et la mise en abîme. Bon, alors j'ai cru, quand le professeur Zinck m'a fait l'honneur de m'inviter à venir ici, j'ai cru qu'il serait intéressant de voir comment Louis de Camões développe un système d'allusions à soi-même qui peuvent être autant de signatures ou de contre-signatures de son œuvre poétique. Une grande spécialiste italienne de la littérature portugaise, Luciana Stegagno Picchio, parle, je cite, du goût amusé pour l'ambiguïté sémantique, ou le jeu de marteler les mots pour en faire jaillir des signifiés qui distingueraient surtout les redondillages. Redondillages sont des couplets en heptasyllabes traditionnels. Où Camões s'abandonne joyeusement à l'exercice poétique, laisse la parole diriger sa pensée, joue presque à cache-cache avec le lecteur pour s'étonner à la fin avec lui de la polysémie du mot. Par exemple, il y a un oiseau qui s'appelle Camão. Camão est le singulier du mot Camões. Et puisqu'il s'agit du singulier de Camões, qui est son nom de famille, il n'est pas forcé d'y voir une allusion à lui-même. Or, quand il dit que Perdreau, le Perdrion, je ne sais pas très bien comment traduire, le mâle du Perdrix, a perdu ses plumes, et il fait un jeu de mots, plutôt intraduisible, entre peine comme plume. Peine, le portugais peine comme plume pour voler, pour plume d'un oiseau, peine comme peine ou douleur, du latin poena, et encore peine comme plume pour écrire, pour s'exprimer, comme pena scriptoria. Ce qui fait supposer qu'il pourrait identiquement parler ironiquement de ses aspirations amoureuses trop haut placées. On dit, une des interprétations biographiques de Camões, c'est qu'il a s'était pris d'une princesse, d'une enfante. Je crois que c'est assez fantasque, ce type d'interprétation, ce type de construction biographique, mais de toute façon, il a certainement eu des amours, ou il s'était pris de quelques dames d'assez hautes conditions, d'assez haut rang. Et on disait, perdrions que la pensée a soulevé un haut lieu, perd la plume du vol, gagne la peine du tourment. Évidemment, on perd ici le jeu de mots, puisque peine en portugais a les trois significations. Il a voulu voler jusqu'à un autre tour, mais il s'est retrouvé sans aile. Et se voyant sans plume, il se meurt de pure peine. Donc, c'est un type d'allusion. Donc, à moins que parfois fait un usage remarquable, il est temps de vous dire que Camões est le contemporain exact de Pierre de Ronsard. Il est né vers 1524-1525, et il est intéressant d'évoquer Ronsard, non seulement parce que leur existence a pratiquement coïncidé, le poète portugais étant mort entre 1579-1580, et le poète français en 1585, mais aussi parce qu'en 1570, au moment même où Camões rentrait à Lisbonne, après un séjour de 17 ans en Orient, dans la misère la plus totale, le cardinal de Lorraine écrivait au roi du Portugal pour lui demander une prévente pour Ronsard. On ne connaît pas la réponse à cette lettre, mais de toute façon, il est intéressant qu'il y ait en même temps de grands poètes contemporains dont l'un vit dans une grande misère et l'autre jouit d'une considération et d'une preuve de protection à son égard qui est remarquable. De toute façon, nous connaissons très peu de détails de la biographie de notre poète. On ne sait même pas avec certitude où il est né, on croit qu'à Lisbonne, on ne connaît pas l'année de sa naissance, on croit, comme j'ai dit, 1524-1525. On ne sait pas où il a étudié, probablement à Coimbra. Et on sait qu'il appartenait à une famille de petite noblesse, dont le blason, et si nous allons voir, c'est assez important, présentait un serpent qui passe entre des rocs. Ou, pour parler en langage plus héraldique en français, si j'ai bien retrouvé les mots corrects, de sable, amphiptère d'or, languet de gueule, il s'entend pâle entre des rochers d'argent. Cet amphiptère au serpent, ailé, est représenté dans notre armorial héraldique comme un serpent qui ne montre pas seulement sa tête et son cou, donc qui n'hisse pas un pal, mais qui glisse entre les deux rochers. Camões a fait son premier service militaire en Afrique du Nord. Il a combattu à Ceuta vers 1548 et il y a perdu l'œil droit. Et puis, on sait qu'il est allé en prison à Lisbonne en 1552, pendant plusieurs mois, à la suite d'une bagarre dans laquelle il y eut un blessé. Et plus tard, quelques mois plus tard, pardonné, il est embarqué vers l'Inde en 1553 et il y a passé 17 ans. D'abord en service militaire, ayant ensuite fait un voyage en Extrême-Orient, connu la prison de nouveau, parti au Mozambique. Enfin, il rentre à Lisbonne en 1570, publie son épopée, le Lusiane, en 1572, et vit dans la misère la plus extrême, quoique le roi lui ait accordé une modeste pension, ayant décédé vers 1579-1580, après que le Portugal ait perdu son indépendance à la tragédie de Casar-Quibir, au nord d'Afrique. Et de son vivant et autres Lusiades, il n'a publié que trois courts poèmes. Ces œuvres lyriques nous arrivent par des éditions plus tardives et par des manuscrits qui prêtent à d'interminables discussions entre les spécialistes. Et pour ce qui est de l'œuvre lyrique, le Camões canonique nous manque encore, surtout en ce qui concerne une nombreuse production de sonnets dont l'authenticité est discutable. L'attribution des sonnets à Camões varie entre quelque chose comme 166 et 600. Et surtout au XIXe siècle, il y a eu des éditeurs avides de retrouver des œuvres inconnues du grand poète et lui ont attribué sans beaucoup de soucis d'authenticité. Dans sa poésie lyrique, Camões, comme il est naturel, parle souvent de lui-même, ce qui est absolument normal chez un poète. Nous pouvons supposer qu'il y a eu une vie amoureuse très agitée, raison pour laquelle il aurait été banni de la cour dans sa jeunesse. Ses amours, ses états de désespoir et d'angoisse existentielle, le jeu parfois tragique entre le hasard et le destin, les contradictions dialectiques de ses sentiments amoureux, l'absence de la femme aimée et sa représentation obsédante dans la mémoire, le sentiment très vif de la distance et de la saudade vécue. Saudade est un mot plutôt intraduisible en français, mais c'est une sorte de nostalgie de quelque chose qui nous manque, l'être aimé qui nous manque. Il y a un mot allemand, Sehnsucht, qui, à mon avis, traduit parfaitement le sens de soldat. des péripéties autobiographiques, surtout pendant son long séjour en Orient, sont autant de thèmes essentiels pour qu'il explore dans sa création poétique, sa création littéraire, avec de constantes références à la tradition cultivée de la poésie occidentale. Et nous verrons que ceci est très important pour ce qui est des allusions à soi-même. La traduction de la poésie occidentale, surtout celle d'Homère, de Virgile, de Pétrarque et de l'Arioste. Mais à ces références de la tradition poétique cultivée, il ajoute une expérience vécue personnelle et le sens d'une histoire du monde qui surprend un tournant décisif. C'est l'époque où la dimension connue du globe terrestre ont été changé vers le voyage de Colomb, avec le voyage de Vasco da Gama, vers la fin du XVe siècle. Donc, Camões vit encore la surprise et la splendeur de cette découverte où chaque jour il y avait des choses différentes pour la connaissance humaine européenne. Et dans sa dixième chanson, il fait une synthèse importante que nous pouvons écouter dans une traduction de Marie-Yvonne Boudois et d'Anne-Marie Kahn. Je vais lire un fragment. Et c'est ainsi que j'ai changé de vie. Moi non, mais le destin cruel et courroucé, car pour ma part, je n'en voulais point d'autre. Mais lui me fit quitter le nid de ma patrie et me jeta sur l'immense océan qui tant de fois faillit m'ôter la vie. Tantôt, je découvrais l'incroyable fureur de Mars, qui de mes yeux voulut me faire voir et ainsi toucher son fruit amer, et sur mon bouclier du feu funeste, on pourra voir l'image. Tantôt, pérégrinant, sans but, à l'aventure, je voyais des nations, des langues, des coutumes, des sites divers, des vertus différentes. Dans ce passage, il ne se limite pas à la synthèse de ce voyage et à l'épisode de la perte de son nez droit, qui revient d'ailleurs plusieurs fois dans sur sa plume. Il reporte sur le plan héraldique son expression « escudo meu », traduite ici comme « mon bouclier », fait allusion à son écu d'armes, dans lequel le serpent est langué de gueule, c'est-à-dire présente la couleur du feu funeste dont il parle. Toute l'œuvre de Camões traduit les contradictions de son être écartelé entre la nostalgie d'une harmonie suprême et un sens aigu de l'incohérence et de la confusion du monde. Entre l'affirmation de la liberté humaine, du libre arbitre et de la conscience révoltée de n'être qu'un jouet aux mains du destin. Entre l'implacable permanence du malheur et la brièveté de la vie et du bonheur. Cette opposition entre le malheur qui dure et le bonheur éphémère est très importante chez lui. Et ce déchirement aboutit à un écart tragique entre le mal présent et le bien passé, qui donne à cette œuvre les accents les plus poignants et la conscience de cette rupture. Mais si Camões parle assez souvent de son existence dans ces termes, il y a d'autres mécanismes qui mettent en jeu pour faire allusion à soi-même d'une façon plus ou moins explicite et plus ou moins complexe. Le renvoi au blason de famille par le jeu entre De Rocher et le serpent, nous le trouvons dans des poèmes comme cette élégie qui est écrite en Afrique du Nord, dont je cite six vers. J'escale le mont qu'Hercule, le Théban, du cap gigantesque sépara, à la Méditerranée ouvrant chemin. Je suis en train de regarder de là où il vit le berger des Hespérides, et le serpent qu'il gardait tua. Donc il y a là ce jeu des figures de son blason qui est, à mon avis, manifeste. Et je crois qu'il a inscrit de façon pareille les figures de ce blason d'arbre dans quelques textes, comme s'il s'agissait de renforcer une affirmation de sa présence au cœur même du poème. N'oublions pas que le serpent qui glisse entre deux rocs peut être approximé d'un cours d'eau ou être métamorphosé à lui. Symboliquement, la fluidité de l'eau était connotée avec la fluidité du temps, et le serpent pouvait aussi fonctionner comme une allégorie de la circularité. Une spécialiste française, Françoise Joukowski, écrit que les écrivains et les artistes de la Renaissance ont tendance à considérer le monde extérieur comme un fond symbolique. C'est, à mon avis, ce qui se passe dans certains passages de Camões. La topique classique fournissait des possibilités aux poètes pour la mise en œuvre de ces mécanismes d'auto-allusion. Il suffit de penser à combien de figures de la mythologie ont été transformées en pierre et au vaste éventail d'images et de métaphores possibles à partir de mots comme pierre, roc, rocher, mont, etc. Il est parfaitement possible que Camões ait employé des signes emblématiques de ce type pour marquer sa présence d'une façon autre. afin qu'elles deviennent en même temps plus intenses et moins offensives dans un procès de dédoublement des points. Il s'agit d'une sorte d'anamorphose littéraire, c'est-à-dire de fragments d'un texte présenté en distorsion apparente ou proposé dans un niveau de signification apparemment moins important, mais qui peuvent être reconstitués dans un sens plus profond. Voici un court passage d'une éclogue. Les monts et les rochers sont déjà devenus de la cire molle. Toi seul cruel m'abandonne, toi qui es plus dur que les monts et les rocs, et plus fuyante que l'eau pure. Les rocs, le serpent, le feu, la prairie verte, nous suggèrent donc en plusieurs combinaisons que nous pouvons rapprocher du blason des Camoëches. Il met en scène ces figures parfois en les opposant. Les concavités du mont répondent à mes soupirs, et toi, comme serpent, leur fermes ton oreille. Ou alors, après avoir parlé de la pierre dure dans une autre éclogue, seulement en toi, je ne connais pas la nature, car si elle était de pierre, de fer ou de serpent, ta cruelle poitrine ne tiendrait plus à cause du feu et des larmes que je laisse échapper. Nous pourrions même oser interpréter quelques-uns des vers les plus énigmatiques du poète dans sa dixième chanson, à la lumière de ce serpent héraldique, surtout si nous le rapprochons du premier emblème d'Alciate, Duc Milan, ton écusson, meilleur d'un serpent en enfant nu, dans une traduction française de l'époque. Parce que Camoëns écrit pour nourrice, j'eus une bête féroce, car le destin n'a pas voulu que ce fût une femme qui eût ce nom pour moi. Il n'y en aurait pas. Je fus élevé ainsi afin de boire dès l'enfance le poison d'amour que plus tard je boirai à l'âge adulte. Cette bête féroce serait alors la lignée de Camoëns est issu. Dans d'autres endroits, il parle aussi de l'habitude de prendre du poison afin d'y devenir accoutumé. Et voyons maintenant ce qui se passe dans l'Illusiade. Il s'agit d'un poème où Camoëns chante le voyage de Vasco de Gama à la découverte de la route maritime vers l'Inde. Il fait de telle façon que le récit de ce voyage enchaîne sur l'histoire du Portugal, depuis ses origines mythiques jusqu'au temps du roi Sébastien. Et en plus, il s'adresse au roi quand il est tout jeune au début de son poème, quand il interpelle pour lui dédier son œuvre, et il s'adresse au roi déjà adulte quand il finit. C'est-à-dire que l'histoire du Portugal et le voyage de Vasco de Gama sont comme contenus dans la vie du roi, ce malheureux roi qui est mort en Afrique du Nord. Camoëns vient ce temps du roi Sébastien, ce voyage de Gama et ce temps du roi Sébastien vient comme combler l'histoire du Portugal. Et puisqu'il y a bien des événements qui se passent après ce voyage historique et dont il est question dans l'épopée, il a bien fallu que le poète les présente sous forme de prophétie. Dans ce poème 1102 strophes de l'hiver, des octaves mouées sur Orlando Furioso d'Ariosto, il y a aussi plus un droit où Camoëns parle de lui-même. Il fait des digressions autobiographiques, des commentaires sur l'existence qu'il mène, des observations sur son métier d'artiste et sur sa vie de soldat. Il s'inscrit dans la matière même de son chant de plusieurs façons. D'abord, pour invoquer les nymphes du Tage, qu'il appelle Métagide, Tage de Jminhas, probablement pour signaler le lieu auquel il appartient. Il leur demandait de lui accorder des accents épiques nécessaires à l'élaboration de son poème. Dans cette première référence à son métier de poète, il exprime son besoin d'arriver à un changement de registre, puisqu'il fait une allusion au type de poème qu'il cultivait lui-même jusque-là, la lyrique et le poème bucolique, et à celui duquel il va lancer, auquel il va se lancer maintenant, le poème épique et tonitruant. Il demande au Tagide une grande et sonore fureur, non celle de la graisse chalumeau ou de la flûte grossière, mais celle de la trompette grande et belliqueuse, une traduction de Roger Bismuth. Ensuite, il parle de soi pour dire au jeune roi Sébastien de son amour de la patrie, puisque s'il daigne le regarder, si le roi daigne le regarder, il verra l'amour de ma patrie n'étant pas mu d'un préville, mais ô presque éternel, il n'y a pas de préville à être connu pour le chant de mon nid personnel, paternel. Pardon. Et plus tard, il fait encore, quand il met dans la bouche de Vasco de Gama, des accents nostalgiques quant à sa sorte à cette patrie. Tout se passe comme si Camoëns parlait de lui-même. Voici. Vasco de Gama fait une description de l'Europe, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, au roi tué africain de Mélinde, au nord de Mozambique, Et puis, quand il arrive au Portugal, il dit « Voici ma patrie aimée, bienheureuse, et si le ciel me permet d'y revenir après cette entreprise dangereuse, qu'avec moi ma vie puisse y finir. » Et dans notre passage, quand il critique l'absence de mécènes, le manque de sensibilité culturelle, l'oubli auquel l'artiste est forcé de se sentir voué, il pense évidemment à lui-même, tandis que vers la fin du poème, son système d'autoréférence fait plus explicite, comme nous allons voir. Reprenant la traduction de Roger Bismuth, je ne le dis pas sans honte. S'il n'y a pas chez nous de héros immortalisés par le vers, c'est qu'on n'y prise pas vers et rime, car qui ne sait pas l'art ne l'estime pas. Notre gamin, je dois dire qu'on croit que Camões était encore de la famille de Vasco da Gama. Ils étaient des parents, ils seraient des parents éloignés. Donc, quand il se lance à chanter le voyage de Gama, peut-être avait-il l'espoir d'un jour recevoir une récompense de la part des membres illustres de cette famille. Et alors, il écrit que notre gamin sache donc gré aux muses de leur grand amour de la patrie. Il les pousse à exalter sa race, à la glorifier sur la lyre, un hommage à ses illustres pauvres guerrières. Évidemment, quand moi je parle lui-même, quand il parle des muses et qu'il dit que Gamma doit savoir gré aux muses. Il arrive même au point d'interrompre le récit de la rencontre de Vasco da Gama avec les autorités de Calicut, en Inde, pour tracer un très amer cadre autobiographique et récapituler ses voyages en mer, les dangers qu'il a courus, son patriotisme et son dévouement, sa pauvreté terrestre et l'oubli même dont il est objet. Et je cite de nouveau la traduction de Roger Bismuth. Tantôt exilé en des gîtes étrangers, avec pour compagne l'importune misère, tantôt frustré de nouveau et plus que jamais de l'espérance déjà acquise, tantôt ramenant à la côte une vie qui tenait un fixe immense. Nous allons voir qu'il va reprendre cette idée de la vie qui n'a un fils immense et qui ramène à la côte. Et puis, voyez neuf à quelles nobles âmes votre tâche donne naissance. Telles sont les faveurs dont ils savent payer ceux dont les champs les glorifient. Quel exemple à de futurs écrivains pour inciter des esprits curieux à immortaliser les exploits dignes d'une gloire éternelle. Il y a donc des allusions plus ou moins directes à sa condition de chantre d'une épopée qui s'attendait à des récompenses et voit avec amertume qu'elles lui échappent, qu'elles ne vont pas lui arriver. Et sur le point de conclure son harangue finale au roi Sébastien, Camões vante ses mérites, l'étude honnête mélangée à une longue expérience et un métier poétique dont il vient de faire la preuve dans le texte même de son poème, pour réaffirmer ensuite son dévouement au service du roi, recourant au topos des armes et des lettres. Ma vie ne manque pas d'études honnêtes à la longue expérience mélangée, ni de génie qui s'y vous est présent, chose qu'ensemble on voit très rarement. Não me falta na vida honesto estudo com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Por vous servir, m'embrasse à vos armes. Por vous chanter, je me consacre aux muses. Mais il y a aussi d'autres endroits où Camões devient un personnage de son épopée, avec au saint déguisement. Au chant 5e des Lusiades, le géant Adamastor, qui se trouve à l'extrême méridional de l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance, est d'une part ce personnage mythique dont les prophéties n'annoncent que des malheurs qui vont arriver aux navigateurs portugais qui ont osé dépasser ces limites interdites de l'extrême sud de l'Afrique. Mais à part ce ton menaçant de son apparition soudaine et effrayante, Adamastor parle très humainement de son existence. Il parle comme un homme. Il raconte une déception amoureuse qui fait penser à d'amères expériences personnelles, auxquelles la lyrique de Camões fait aussi de nombreuses allusions. C'est la transfiguration mythique de l'auteur. Le géant dit avoir été dupe de Tétis, la déesse qui est la femme de Neptune, de qui il s'était pris à la folie et qui lui aurait fait signifier qu'elle lui accorderait un rendez-vous. Quand il s'est précipité à sa rencontre, il n'a pu embrasser qu'un rocher, ayant aussi été converti en rocher par une singulière métamorphose. En plus, il se plaint qu'après cette tragédie qui lui est arrivée, la déesse aimée accroît son tourment, puisqu'elle l'entoure en permanence dans les eaux. La critique a tendance à penser qu'Adamastor a quelque chose d'autoporté moué sur le mythe, et il n'est pas besoin de rappeler que le blason de Camões figure un serpent qui glisse entre des rocs. Adamastor se plaint et évoque aussi ses sentiments. Je ne fus plus un homme, non, mais immobile et muet, un roc et est un roc à ses côtés. Dans son neuvième de Lusiade, Camões crée aussi le personnage d'un soldat, Leonardo Ribeiro, qui se lance à la poursuite d'une nymphe, Éphira, dans l'allégorie de l'île de l'amour, c'est une île agencée par la déesse Vénus, dans le chemin de retour des Portugais, pour récompenser les navigateurs de leur prouesse d'arriver à Nantes. Ce soldat, qui cite en italien un vers de Pétrarque, « Tra la spica e la mano, qual muro è messo », exprime le désarroi et la frustration de ne pas pouvoir prendre la nymphe entre ses bras, jusqu'à ce qu'elle se laisse tomber au pied de son vainqueur. On peut avoir lui encore un portrait de Camões, un Camões qui s'installe dans l'allégorie pour assouvir son désir amoureux. D'autre part, il est vrai que Camões se présente aussi un protagoniste d'un fait historique raconté de l'épopée. Il disait, comme je vous ai cité tout à l'heure, que sa vie pendait d'un fil très mince. Et dans les prophéties qu'un nymphe Tétis fait à Vasco de Gama sur l'île de l'amour, quand il se retrouve sur l'île de l'amour, il est question de naufrage que le poète va faire quelques 60 ans plus tard, à l'embouchure du fleuve Mékong en Indochine. Nous avons ici le curieux mélange d'un topos littéraire et d'une situation historique et autobiographique. En effet, le naufrage du chant 9e des Lusiades a un précédent littéraire classique. Jules César, à Alexandrie, a dû se jeter à la mer et nagea l'espace de 200 pas jusqu'au vaisseau le plus proche, élevant sa main gauche au-dessus des flots pour ne pas mouiller ses écrits qu'il portait avec lui. Camões nous parle de son naufrage dans ces termes, et je n'en donne une très pâle traduction. Celui-ci, c'est-à-dire le Mékong, accueillera doux et paisible, là dans son sang, le chant qui, détrempé, vient de naufrages tristes et très pénibles, des tourmenteurs et siffres échappés, des grandes fins et des périls horribles. Quand sera l'ordre en juste exécuté, dans celui dont la lyre au grand éclat, plus de renom que de bonheur aura. Dans cette mise en scène, il commence donc par faire allusion à son poème, c'est-à-dire au texte même que le lecteur a ou va avoir sous ses yeux, dans ses mains, et qu'il doit lire en ce moment comme une sorte d'épave de naufrage, que l'auteur a fait un de très lointains parages. Et ce n'est qu'après avoir parlé de ce chant mouillé qu'il fait allusion à ses circonstances personnelles. Non seulement son navire a coulé, mais il a souffert de grandes privations et de grands dangers. Et en plus, il va ou est mis en prison, et cet emprisonnement est injuste. Enfin, il parle aussi de son art et de son sort de poète. Sa lyre est vraiment très sonore, et où il vaut de la renommée, mais guère de bonheur. Et il insinue aussi ses talents qui n'ont pas trouvé de récompense par des allusions à l'insensibilité de ses contemporains, notamment des grands seigneurs, à l'égard de l'art. Par comparaison, comme je l'ai déjà, avec les grands chefs d'antiquité, et il est évident qu'il fait allusion à sa situation personnelle, ce qui lui permet de conclure plus tard, déjà près de terminer son poème, « Assez m'amuse, assez. Voici ma lyre désaccordée et ma voix assourdie. Non pas à cause du chant, mais de le dire à des gens insensibles et durcis. La faveur qui le plus enflamme et inspire ne peut point venir d'une patrie plongée dans la convoitise et la rudesse d'une aussi sombre, austère et vile tristesse. » Cette idée d'une sombre, austère et vile tristesse, ou mange-t-elle apagada et vile tristesse, est devenue un lieu commun de référence littéraire de la culture portugaise. La patrie est plongée dans une austère, apagada et vile tristesse, une sombre, austère et vile tristesse. Aujourd'hui encore, contre un moment de crise, on dit la même chose. Les Lusiades sont donc un texte qui prend comme modèle les grandes épopées de l'Antiquité classique, notamment l'Odyssée et l'Énéide. Virgile et Homère sont des présences assidues, mais le cas d'Homère est vraiment intéressant, et même si, comme Virgile, il donne lieu à de multiples allusions, nous devons regarder à trois temps fondamentaux d'une stratégie personnelle et promotionnelle d'auto-allusion. D'abord, Camões, au début du poème, enjoint à la muse ancienne de se taire, et proclame que les navigations retentissantes du sage grec et du sage troyen, c'est-à-dire d'Ulysse et d'Énée, sont dépassées par les exploits nouveaux des Portugais. Cesse tout ce que l'ancienne muse chante et une valeur plus haute se présente. Plus tard, au sens géométrique même de son texte, c'est-à-dire dans les strophes auxquelles correspondrait le numéro d'ordre 554-555, je me rappelle que le total des strophes, c'est 1102, il fait un résumé de toute l'Odyssée, Dans deux strophes, il récapitule synthétiquement la plupart des aventures d'Ulysse et de ses compagnons dans le poème homérique. Circé, Polyphème, les sirènes, les cicones, les autophages, l'île d'Éole, Calypso, la descente aux enfers. Même s'il fait une ou deux allusions à Virgile, c'est comme si Camoens demande à l'Odyssée de projeter sa lumière épique sur tout le texte à partir de ce centre d'irradiation. Et après ces deux moments, celui du commencement et celui du juste milieu, vient le moment final, l'exact milieu vient le moment final, correspondant exactement aux derniers quatre vers de poème. Il s'adresse au roi, « Ma muse déjà prisée et joyeuse, je garantis que partout elle vous chantera, pour qu'Alexandre en vous voie sa grandeur, sans envier Achille et son bonheur. » Camoens dit donc au jeune Sébastien qu'Alexandre de Macédoine pourra se revoir dans les prouesses militaires du roi portugais en Afrique du Nord, sans avoir à envier l'heureux destin d'Achille, du fait que si celui-ci avait eu Homère pour chanter ses exploits, le souverain portugais peut compter identiquement sur le poète Camoens. Empuissement, il se compare donc à Homère dans cette dernière auto-allusion d'Élysiade, et cette comparaison est soigneusement préparée dès le début du poème, avec les allusions continues à l'Odyssée. Ce parallèle a une cohérence très forte avec ce qu'il dit des navigations portugaises. Si elle dépasse les exploits des grands héros de l'Antiquité légendaire, il est normal que leur chanteur, Luís de Camões, au moins, puisse se comparer, sinon dépasser, celui qui est le premier à chanter cette Antiquité. Bon, dans l'œuvre lyrique de Camões, il y a aussi des chansons d'exil, où il n'est pas difficile de voir le poète sous les traits d'une figure comme celle d'Ovide, exilé, ou de quelqu'un qui souffre d'un éloignement prolongé de la femme aimée. Ou alors, il cite le livre de Job pour maudire le jour de sa naissance dans un sonneur aux accents désespérés et violemment expressionniste. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur le long poème Babel et Sion, le titre n'est pas de Camoens. C'est une paraphrase, une longue paraphrase du psaume 136 sur le fleuve de Babylone. Dans les psautiers protestants, je crois qu'il s'agit du psaume 137. Mais dans le poème de Camoens, ce n'est pas seulement une paraphrase de ce psaume, il s'agit en même temps d'une authentique rhapsodie de thèmes bibliques. La première chose qui est très curieuse, c'est que c'est un texte de 365 vers, ce qui dit bien de sa relation avec le temps. C'est une sorte de poème calendrier. Puis, ce poème a été publié dans la première édition, 15 ans après la mort de Camoens, et dans la deuxième, en 1598, en 10 ans, mais avec le problème de strophes de divers, mais avec le problème grave qu'une de ces strophes a 15 vers. Donc on a déguisé la structure graphique du poème. Le fait est que dans les manuscrits, ce poème est écrit en strophes de 5 vers. Et c'est un poème qui fait une sorte de bilan d'une vie sur le registre de la poésie d'inspiration biblique, qui, comme vous savez, surtout après la Saint-Barthélemy, donc le dernier quart du XVIe siècle, était très cultivé soit par le côté huguenot, soit par le côté catholique. D'abord par les huguenots, plus tard par les catholiques. C'est un chant d'exil, le poète, mais dans ce chant d'exil, le poète prend littéralement ce que dit le psaume pour déposer les instruments du chant profane, la flûte qui peut agencer des métamorphoses du monde, pour empoigner un lyre d'or, propre au chant de la divinité et à la louange de la divinité, et pour aller à la rencontre de Dieu en quête du salut. Mais dans l'acte même de dire qu'il abandonne la flûte du chant profane, il fait une récapitulation orphique des pouvoirs de son chant, et aussi du rôle que ce chant profane joua dans sa vie. Je vais lire ce passage dans la belle traduction de Marie-Yvonne Baudois et d'Anne-Marie Kahn. Elle ne rime pas, mais le rythme, l'allure du texte, c'est très bien recouvré en français. Ô ma flûte, où tu étais, les montagnes accouraient chaque fois que je jouais, et les eaux qui descendaient s'empressaient de remonter. Plus jamais ne t'entendront les tigres qui s'apaisaient. Et les brebis qui cessaient de paître pour t'écouter brouteront tout leur content. Jamais plus tu ne feras devenir rose l'épine, le long des rives en fleurs, et ne retiendra les flots, surtout pas ceux de mes yeux. Puis le fourré en moi, et tu n'entraîneras plus après toi la source pure, puisque tu n'as pu bannir les égarements du sort. Je t'offre à la renommée, qui toujours est en éveil, ô ma flûte bien-aimée, et lorsque change la vie, les joies changent avec elle. C'est un long parcours poétique aux accents fortement platoniques et pythagoriques, ce qui est d'ailleurs assez étrange, puisque le platonisme était condamné par l'Église et clairement ils étaient un catholique orthodoxe. Il dit par exemple que la figure humaine dont il s'est épris n'est pas celle qui doit être vénérée ni aimée, parce qu'elle n'est qu'un rayon de la beauté, qui seul, la beauté divine qui seule doit être aimée. Et dans son parcours de saint fortement platonique et pythagorique, nous pouvons voir des allusions métaphorisées à des circonstances biographiques, comme la figure de la femme aimée, comme la perte des droits, ou au séjour en prison, par exemple, à propos de Babylone, il dit « non captif et verrouillé dans la Babylone infernale, mais des vis dénoués et jusqu'à toi portés au ma patrie originale », quelque chose comme ça. Donc, il transfigure des épisodes vécus, des allusions sur un plan de cheminement vers la divinité. Mais ce qui est plus important, c'est que à un moment donné, il refuse soit le chant lyrique, soit le chant épique, et il le fait par la voie d'une palinodie, d'une recantatio, c'est-à-dire d'un revenir en arrière, d'un regret sur ce qu'il a fait. Là où la Grèce chalumeau ou la trompette belliqueuse avait autrefois été évoquée au seuil de l'épopée d'Élusiade, nous voyons maintenant la mise en question et le refus de tout art poétique profane. C'est encore une allusion à soi-même, en tant que maître du souffle qui habitait les poèmes d'autrefois. Que le berger et le roi m'écoutent, que ces sans accents retentissent et que le monde s'étonne. De ce que j'ai chanté à tort, je chante maintenant la palinodie. Le poète peut donc faire des allusions directes ou indirectes à soi-même. Il peut prendre des figures, des symboles héraldiques. Il peut engendrer un mythe ou fabriquer un personnage imaginaire pour figurer comme un portrait personnel. Il peut se projeter dans une description de son chant ou dans une image de son intense amour de la patrie. Il peut se revoir dans ses complaintes quant au mépris des arts qu'il trouve un peu partout. Il peut regretter le manque d'un mécène, donc parler de lui-même comme quelqu'un qui a été laissé à l'abandon. Il peut se faire intervenir comme personnage historique. Finalement, interpellant le roi, il ose se comparer à Homère. Enfin, plus tard, dans un autre poème, il cherche à effacer tout ce qu'il a écrit comme poète lyrique et comme poète épique. Il ne s'affirme alors au bout de son chemin littéraire et de sa vie que pour s'anéantir devant Dieu. Nous voyons donc que Louis de Camoens, autre expression lyrique subjective qui est normale chez un poète placé entre la Renaissance et le maniérisme, a d'autres façons de parler lui-même. Ce n'est pas comme Dante qui, dans la Divine Comédie, fait tout un parcours depuis le début jusqu'à la fin pour la conversion de Dieu. Donc Dante est un sujet permanent. Ici, non, ce sont des allusions faites à des intervalles. Ce ne sont pas directement les noms du poète, mais ce sont encore des affirmations plus ou moins explicites ou plus ou moins chiffrées qui réitèrent sa présence personnelle. C'est ce que j'appelle ces mécanismes d'auto-allusion. Je vous remercie.